Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio Axe. Pour cette 32e émission de Bonheur Chronique, ma chronique hebdomadaire sur le bonheur, je vais aborder le thème suivant. Pourquoi notre bien-être eudémonique participe de notre bonheur? J'imagine votre air étonné à l'écoute de l'intitulé d'émission de cette semaine. Bien-être eudémonique, Kézako. Laissez-moi donc vous donner quelques éléments sur le bonheur que les philosophes de tout temps et les spécialistes de la psychologie positive plus récemment définissent sous deux formes de bien-être différentes et complémentaires. D'un côté, le bien-être hédonique, du grec hédoné, plaisir ou jouissance, et de l'autre, le bien-être eudémonique, du grec eudaimonia, traduit généralement par bon esprit ou épanouissement. L'hédonisme est une doctrine philosophique selon laquelle la recherche du plaisir et l'évitement du déplaisir forment des impératifs catégoriques. Pour les sciences sociales, le bien-être hédonique est le bonheur le plus concret, la joie immédiate, éprouvée quand nous menons des activités satisfaisantes. Clairement physiologique, avec une forte composante émotionnelle, c'est le sentiment tangible de plaisir. Des plaisirs éprouvés à travers nos cinq sens et la satisfaction de nos besoins et de nos désirs. Il s'agit aussi de notre volonté d'éloigner le mal-être et la souffrance, d'éviter les tensions et les conflits qui pourraient ternir une existence vouée à la jouissance des sens. Voici quelques éléments favorisant le développement de notre bonheur hédonique. La quête de plaisir à travers la stimulation de nos sens et la recherche d'émotions agréables, plaisir de la table et plaisir du lit, plaisir du voyage à la découverte de nouveaux horizons et de nouvelles cultures, plaisir des relations amicales, plaisir des yeux aux expositions d'art et aux musées, plaisir multiforme des concerts, du cinéma, de tous les divertissements. Le bien-être hédonique, c'est aussi la sensation d'éprouver, en moyenne, plus d'émotions agréables que désagréables, de vivre une vie affective équilibrée dans son environnement serein, au centre d'un réseau de relations amicales, familiales, professionnelles, sans tension, anxiété ou stress destructeur. C'est aussi la satisfaction à court terme de nos désirs et de nos besoins, concentrés sur le présent, l'immédiateté. Quelquefois très puissantes, les manifestations spontanées et intenses de ces plaisirs et leurs perceptions sont toutefois de courte durée. Aussitôt le désir satisfait, le bonheur hédonique diminue d'intensité, s'évapore. La joie d'avoir en main le dernier gadget à la mode ne dure jamais très longtemps. La publicité sait parfaitement éveiller notre intérêt pour le bien-être hédonique, suscitant en nous de nouveaux besoins dans un esprit consumériste insatiable. Cependant, le bonheur hédoniste peut rester sourd aux sirènes du marketing, trouvant son développement dans des plaisirs simples, accessibles à tous. Prendre soin de sa santé, se ressourcer régulièrement afin de maintenir ses batteries corporelles et émotionnelles bien chargées, s'offrir du temps et des loisirs, rechercher un travail épanouissant, développer des relations enrichissantes. Passons maintenant au sujet de la semaine, l'autre forme de bien-être, le bonheur eudémonique. Les philosophes le définissent comme la somme des comportements procurant du bonheur par leur moralité. Platon axe son interprétation sur l'accord d'un individu avec la conscience, quand Aristote penche pour la contemplation et l'action dans la vérité, et qu'Épicure insiste sur ce qui produit un esprit serein. Pour les sciences sociales, le bonheur eudémonique se définit comme une forme de bien-être existentiel qui prend place quand la vie et les actions d'un individu lui procurent du sens. Associé à la recherche d'une vie meilleure, basée sur le développement personnel, le bonheur eudémonique implique dans certains cas de fournir des efforts, de travailler dur à obtenir un diplôme, de s'entraîner longtemps et régulièrement avant de maîtriser un sport, une langue étrangère, un instrument de musique, de vivre des situations difficiles dans l'exploration de modes de vie d'autres cultures. S'appliquer à développer une meilleure connaissance de soi, élargir la conscience de soi, quitte à passer par des phases de questionnement ou d'incertitude, de remise en question de nos croyances, de nos modèles de référence, puis en tirer satisfaction et fierté, heureux du travail sur soi accompli, grandi par les progrès notables, vécus au niveau émotionnel, relationnel, intellectuel et spirituel. Le bonheur eudémonique est engendré par l'atteinte de nos objectifs, favorisant la poursuite de notre motivation, l'acceptation des efforts à fournir pour traverser les difficultés, faire face aux obstacles, aux risques de découragement qui ne manqueront pas de nous mettre à l'épreuve. L'automotivation, la volonté, le sens de l'effort, l'investissement personnel sont des moteurs puissants d'atteinte du bonheur eudémonique. Un bonheur qui nous accompagne alors sur le long terme, renforçant confiance et estime de soi. Enfin, une des sources les plus importantes du bonheur eudémonique réside dans le don de soi. Tous nos engagements altruistes, toutes les actions auxquelles nous participons afin de faire de ce monde un monde meilleur. Appliqué à l'éducation, l'eudémonisme se traduit par un accompagnement des enfants dans la recherche de sens, dans la culture de la paix, au service de la vie, dans la qualité des interactions. Enseigner le bonheur eudémonique, c'est sensibiliser les plus jeunes au sens donné à leur vie, c'est-à-dire à leurs idées, leurs paroles, leurs actes et leurs engagements. Bonheur hédonique et bonheur eudémonique se complètent et enrichissent nos vies. Il n'y a pas d'antagonisme entre les deux. Nous avons besoin de satisfaire nos désirs à court terme, de vivre des moments agréables, des instants de plaisir intense, et nous avons besoin aussi de développement personnel, de nous réaliser, de nous épanouir sereinement, d'œuvrer à créer une meilleure version de nous-mêmes, investissant alors sur la patience et l'effort sur le long terme. D'après Ed Diner, un des fondateurs de la psychologie positive et créateur de nombreux tests d'évaluation du bonheur, les personnes interrogées sur leur état de bonheur répondent généralement qu'il est composé de 2/3 de composantes hédoniques et 1/3 de composantes eudémoniques. Le même Ed Diner a établi une échelle à partir d'indicateurs du bien-être hédonique et eudémonique, permettant de mesurer les niveaux de satisfaction de vie. Ces mesures étant variables pour chaque individu en fonction des événements vécus, il est très intéressant de les suivre régulièrement pour visualiser les tendances générales d'évolution de notre bonheur. Ces mêmes indicateurs apparaissent dans la mesure du BIB, le bonheur intérieur brut d'une nation. L'ONU, à travers le World Happiness Report, le rapport mondial sur le bonheur, mesure depuis plusieurs années le niveau de bonheur des citoyens de tous les pays du monde et communique ce classement. Cette évaluation est basée sur de nombreux critères tels que le PIB, produit intérieur brut par habitant, l'aide sociale, l'espérance de vie en bonne santé, la liberté relative quant au choix de vie, la générosité et la perception par les citoyens de la corruption gouvernementale. Les pays scandinaves prennent la tête de ce classement. La Finlande, le Danemark, la Norvège et l'Islande. La France se positionne à la 24e position entre le Mexique et Taïwan. Tandis que les pays peuplés par les citoyens les moins heureux sont la Centrafrique, l'Afghanistan, la Tanzanie et le Rwanda. Parallèlement à cet outil, toujours lié au PIB par habitant, il existe dans la chaîne himalayenne un tout petit royaume, le Bhoutan, qui a mis en œuvre dès 1972 une autre manière de mesurer le bonheur de sa population, le BNB, le bonheur national brut. Ce nouvel instrument, influençant toutes les décisions politiques nationales, mesure quatre critères. La protection de l'environnement, la conservation et la promotion de la culture bhoutanaise, la bonne gouvernance et le développement économique responsable et durable. Si l'ONU classe le Bhoutan dans le rapport mondial sur le bonheur à la 95e position entre le Vietnam et le Cameroun, il s'avère que le Bhoutan était jusqu'à cette année le seul pays au monde à mesurer et utiliser son bonheur national brut. Les nombreux récits de voyageurs en provenant de ce petit royaume rapportent qu'il n'y a pas d'agitation. L'atmosphère y est paisible, sereine, sans stress. L'éducation et la santé y sont gratuites. La population vit dans une ambiance de bonne humeur naturelle, de calme et d'humour. L'exemple du Bhoutan est suivi depuis peu, puisque le gouvernement néo-zélandais a dévoilé le 30 mai 2019 son budget bien-être, Wellbeing Budget, présenté par la première ministre travailliste Jacinda Ardern comme une première mondiale. Il repose sur l'idée d'orienter la politique sociale et économique du pays non plus seulement en se basant sur le produit intérieur brut, le PIB, mais dorénavant selon les standards du bonheur national brut, le BNB. Ces pays offrent un nouvel espoir à l'humanité, prouvant que les institutions peuvent développer la capacité des individus à augmenter leur bonheur eudémonique, libres de mener toutes les actions, toutes les initiatives qui donnent du sens à leur vie, qui comblent leurs besoins d'harmonie et qui contribuent à construire un monde meilleur, un monde offrant de multiples chemins vers le bonheur. Le conte de la semaine s'intitule « Les chemins du bonheur ». Il était une fois un génie de la lampe peu commun. On le sait tous, les génies offrent de réaliser trois vœux à celui ou celle qui le libère de la lampe d'où ils sont prisonniers. Or, le génie de cette histoire est différent. Il n'exauce qu'un seul vœu. Et celui qui le formule doit absolument contribuer à sa réalisation. C'est ainsi qu'un jour, par le plus grand des hasards, mais au moment où il en avait le plus besoin, un génie apparut à un explorateur qui venait de faire briller une vieille lampe qu'il avait acquise lors d'une de ses expéditions. Le génie dit alors « Pour m'avoir libéré de la lampe, je t'offre d'exaucer un vœu. Ne suis-je pas supposé avoir droit à trois ? Rétorqua l'explorateur un peu déçu. Tu as raison. Normalement, tu aurais droit à trois souhaits. Mais toi, je t'aime bien. Alors tu n'auras qu'un seul souhait. Devant l'air perplexe de l'explorateur, le génie ajouta. Vois-tu, j'ai constaté que les humains réfléchissaient davantage et prenaient de meilleures décisions lorsqu'il n'avait droit qu'à un seul souhait. Et j'aimerais que tu prennes le temps de savoir ce qu'il te faut vraiment pour être heureux. D'abord, très déçu de n'avoir droit qu'à un seul souhait, l'explorateur se mit à réfléchir. Il réfléchit longuement à ce qui le rendrait heureux. Il rêva de trésors inestimables, de voyages, de découvertes, de notoriété, de paix intérieure, de grandes passions, d'accomplissement, etc. Mais il n'avait droit qu'à un seul souhait et se voyait incapable d'arrêter son choix sur une seule chose. Les jours passèrent et chaque fois, la liste de ses désirs s'allongeait alors qu'il devait la restreindre à un seul souhait. Puis l'explorateur se rappela le proverbe oriental « Donner un poisson à quelqu'un, c'est le nourrir pour un jour. Lui apprendre à pêcher, c'est le nourrir pour la vie. » Il savait maintenant ce qu'il demanderait au génie de la lampe. Excité par sa trouvaille, il courut trouver le génie et commença par le remercier de ne lui avoir accordé qu'un seul vœu. « Jamais je n'aurais pensé au souhait que j'ai en tête maintenant si plusieurs souhaits m'avaient été offerts, expliqua-t-il au génie. « Je suis content que tu apprécies mon geste, » retourna le génie. « Puis-je maintenant connaître ton souhait ?»«
Oui, »
lança l'explorateur avec enthousiasme. « J'aimerais connaître le chemin du bonheur. » Le génie dut réfléchir. Ce genre de souhait n'étant pas habituel, il demanda à l'explorateur de bien vouloir patienter quelques jours afin qu'il puisse rassembler le nécessaire. Encore une fois un peu déçu, l'explorateur accepta. Que pouvait-il faire d'autre? Le premier jour passa. L'explorateur avait excité toute la journée à l'idée d'enfin connaître le chemin du bonheur. Deux, trois, puis quatre jours passèrent sans que le génie ne se manifeste. N'en pouvant plus d'attendre, l'explorateur commença à réfléchir sur son souhait et se demanda ce qui lui était essentiel pour être heureux. Il se demanda quels étaient les moments de sa vie où il avait été le plus heureux. Il en trouva un, deux, trois, plusieurs. Il découvrit ensuite que ces moments, pourtant différents, avaient en commun le fait de lui avoir fait vivre des émotions semblables. Voilà les ingrédients de mon bonheur, se dit-il, enthousiasmé par sa découverte. D'autres questions lui vinrent à l'esprit. Quelles seraient les trois plus petites choses que je pourrais faire dès maintenant, ou d'ici à la tombée du jour, pour revivre, ne serait-ce qu'en partie, ces émotions qui m'ont rendu si heureux dans le passé? Plus il s'interrogeait, plus les idées se bousculaient. Voyant le pouvoir des questions qu'il s'était posées, il prit un crayon et écrivit toutes les questions utiles qui lui passaient par la tête. Si j'apprenais qu'il ne me restait que très peu de temps à vivre, où investirais-je davantage de ce temps précieux? Où investirais-je moins de ce temps précieux? Que pourrais-je pardonner et ainsi me soulager d'un poids devenu inutile? Que pourrais-je me pardonner et ainsi me soulager d'un autre poids devenu inutile? Que pourrais-je faire pour rire de bon cœur aujourd'hui? Quelles activités, passe-temps, etc., auxquelles je prenais beaucoup de plaisir à pratiquer, pourrais-je reprendre? Puis, un matin, l'explorateur se leva et regarda sa liste de questions. Il avait pris l'habitude de se concentrer sur une question aidante par jour et remarqua une note manuscrite au bas de la page, une note signée par le génie de la lampe. On pouvait y lire « Le chemin du bonheur, prendre le temps de s'y arrêter régulièrement. » Pour l'action de la semaine, prenez une feuille et tracez deux colonnes. À gauche, la liste de ce qui provoque en vous du bien-être hédoniste. Petit et grand plaisir, qualité de vie, situation agréable. À droite, la liste de vos bonheurs eudémoniques. Activité utile, passionnante, altruiste, objectif atteint après un effort conséquent. Mettez à jour régulièrement cette liste afin de mieux connaître votre recette personnelle de bonheur. Quant à la musique du bonheur de la semaine, je vous laisse avec la voix chaude de Louis Armstrong, émerveillé par What a Wonderful World. C'était Jean-Marie Marcos pour Bonheur Chronique sur Radio Axe. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur le bonheur. Et d'ici là, soyez heureux.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.